OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles. Ce soir, on va regarder la discipline de l'évangélisation. Très intéressant parce que moi, ça m'a fait reviser différentes notions, différents versets. Et c'est important de considérer la discipline de l'évangélisation. Alors, je divise la leçon en trois parties. La première, l'évangélisation, une discipline qui nous est commandée. Donc, c'est pas quelque chose qui nous dit, le Seigneur nous dit pas, si ça te tente, tu t'évangéliseras pas. Si ça te tente pas, ben là, laisse faire. C'est pas de même, ça marche. Le Seigneur nous a commandé. Un commandement, ceux qui ont fait de l'armée, ils savent c'est quoi un commandement. Quand un officier nous donne un commandement, ça veut dire qu'il faut que tu obéisses. Et on se rend compte, si on s'examine avec le moindrement d'honnêteté depuis le début de notre vie chrétienne, est-ce qu'on a toujours été aussi zélé dans l'évangélisation qu'on le devrait, ou s'il y a vraiment beaucoup de place à l'amélioration? Et quand on désobéit, il y a une chose que parfois on oublie, c'est que c'est un péché. Quand le Seigneur nous demande d'évangéliser et qu'on n'évangélise pas, on pêche. Alors, ce n'est pas quelque chose de léger que de désobéir au Seigneur. La deuxième idée qu'on va examiner, l'évangélisation, une discipline habilité, ça veut dire, le mot anglais, il est difficile à traduire, c'est empower, empowered. Empowered, ça veut dire Dieu te rend capable, la force d'être capable de le faire. Souvent, quand on se fait rappeler nos devoirs face à l'évangélisation, on se dit, mais moi, je suis pas capable, moi. Il n'y a pas de problème à dire ça au Seigneur. Il sait que tu n'es pas capable. Mais c'est lui qui te rend capable. Alors, il faut se souvenir que la puissance, elle ne vient pas de notre décision ou elle ne vient pas un bon matin, tu décides, ah, c'est vrai, je n'évangélise pas, il faudrait bien que je me remette. Non. Va demander, si tu te rends compte que tu n'as pas la puissance, tu n'as pas la force, tu n'as pas le. Ben, demande-la à Dieu et c'est lui qui est capable de te la donner. Ça, c'est le deuxième point qu'on va regarder. Et le troisième point, c'est qu'on va regarder, c'est une discipline pratiquée. Donc, on ne peut pas devenir des évangélisateurs si on n'évangélise pas. Vous savez, comment appelle ça? Quand on dit un forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben, c'est en évangélisant qu'on devient des évangélisateurs. Alors, à quelque part, quand on dit pratiquer, c'est une décision que tu prends et que tu te disciplines. Pas pour rien que le mot, la discipline de l'évangélisation, le mot discipline est dans l'expression, la discipline. Une discipline, on sait ce que c'est. Quand quelqu'un décide de faire des push-ups le matin, il y a des matins, tu te réveilles et ça ne te tente pas. Ben, on devrait évangéliser à tous les jours. Puis on ne le fait pas tous les jours. À quelque part, pratiquer, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a une décision qu'il faut qu'il soit prise, puis il faut que tu ailles demander à Dieu de te donner ce qu'il faut pour persévérer. Même si tu en prends, tu n'es pas obligé de prendre des grosses affaires. Le Seigneur ne demande pas à tout le monde d'aller prêcher au stade olympique, là. Il y a certaines personnes que le Seigneur a appelées pour ça, mais quand le Seigneur, dans Éphésiens, il dit qu'il a appelé quelques-uns les évangélistes, on n'est pas tous des évangélistes, mais le Seigneur nous demande à tous, les chrétiens sans exception, d'être capables de partager notre foi autour de nous autres. Donc, l'évangélisation, c'est vraiment une activité par laquelle le Seigneur fait connaître son glorieux évangile aux pécheurs. C'est une activité qui est essentielle et qui est obligatoire. J'entendais quelqu'un tout à l'heure dire redonner mon premier amour. C'est bizarre que j'entende cette expression-là parce que je suis en train de lire une brique là, sur l'Apocalypse, puis il explique c'est quoi que c'est perdre son premier amour. En gros, l'idée fondamentale de perdre ton premier amour, c'est d'arrêter d'évangéliser. C'est ça, la première idée. C'est sûr tu peux rattacher d'autres choses autour de ça, là. Mais à quelque part, quand on se regarde avec. Moi, là, si je regarde ma vie d'évangélisation dans le passé, je me rends compte que ça a tendance à avoir des dents-ci. Ou bien non, je suis bien zélé, puis je fais des affaires que la plupart du monde, il y en a plusieurs qui font pas. Ou bien non, on dirait que je tombe sur une motte, comme on dit. on serait mieux, je pense, que de, plutôt que de marcher en dents de scie, que d'être régulier et d'en faire un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. Tu te rêves loin, comme on dit. Alors, quel croyant peut dire sérieusement « J'évangélise autant que je le devrais. » Ça prend quelqu'un qui a du front pas mal pour dire « J'évangélise autant que je le devrais. » Alors, on se rend tous compte, on n'a pas besoin de s'examiner bien longtemps pour se rendre compte qu'on a des manquements à cet effet-là. Et moi, je regarde ça avec du recul, ça fait quand même 40 ans que je suis chrétien. J'ai vécu dans plusieurs églises et je sais que dans la majorité des églises, il y a un gros problème à ce niveau-là. Des fois, c'est l'église locale elle-même qui ne fait plus grand travail d'évangélisation. Puis des fois, c'est les individus qui sont à l'intérieur de l'église. Puis des fois, c'est les deux. À quelque part, pas pour rien que le Seigneur il dit à Éphèse, tes œuvres, je suis bien d'accord avec ça, tu t'occupes de la doctrine, je suis bien d'accord avec ça, tu t'occupes de garder ta doctrine pure, je suis bien d'accord avec ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors la piété exige que nous nous disciplinions à pratiquer l'évangélisation. Les croyants, aujourd'hui, évangélisent peu ou évangélisent pas pour de multiples raisons. Une des premières raisons, c'est qu'on se sent incompétent à le faire. On se dit, ben là, moi, comment tu veux que je partage l'évangile avec quelqu'un? Je connais pas ma Bible, puis si quelqu'un m'amène une objection, je saurais pas quoi dire. Donc, à quelque part, il y a comme un sentiment d'incompétence face à donner l'évangélisation. Il y a un autre, la paresse. Et là, on peut facilement s'identifier. À quelque part, on a tous péché par paresse. Le Seigneur, des fois, si tu pries le Seigneur Jésus, à tous les jours, de te donner des occasions de partager son évangile autour de toi, crois-moi, il va t'en donner. Mais quand qu'elle passe devant toi, saisis-la. Tu sais, il veut dire, à un moment donné. Alors, la peur du rejet ou de la persécution, ça, je dirais, la peur, c'est sûrement le plus gros empêchement dans le domaine de l'évangélisation. On a peur d'être mal reçu, de se faire dire « Toi, achale-moi pas avec tes clowneries. » On a peur de se faire dire des bêtises. On a peur d'approcher quelqu'un qu'on connaît pas pour lui parler du Seigneur. Pourtant, quand on prend l'image de Jonathan Edwards dans « Pêcheur entre les mains d'un Dieu en colère », il utilise l'image que les pêcheurs marchent tous sur un plancher de bois pourri. C'est de même que tu le vois. T'es habitué à voir les gens qu'à chaque fois que tu les vois, ils marchent sur des planches en bois pourri puis ils peuvent partir n'importe quel temps. À quelque part, si on avait vraiment... Moi, je me souviens d'avoir lu un livre sur un évangéliste en anglais qui s'appelle « Vivre à la lumière de l'éternité ». Ça veut dire qu'il n'y a pas une journée dans ta vie où tu ne penses pas uniquement à une chose, soit le ciel, soit l'enfer. L'éternité fait partie de ta pensée. Et si on arrête toujours ça à l'esprit, en pensant que les gens qui sont autour de nous, s'ils meurent, ils s'en vont en enfer, si on serait sérieux, là, on parlerait de l'Évangile beaucoup plus qu'on en parle, à quelque part. Alors, le premier point à examiner, c'est que l'évangélisation, c'est une discipline qui nous est commandée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, on n'est pas tous appelés à utiliser les mêmes méthodes pour évangéliser. Par exemple, le Seigneur ne demandera pas à tout le monde d'être capable de prêcher en public. Il ne demandera pas non plus à tout le monde de faire du porte-à-porte. Mais cependant, tous les croyants bibliques sont commandés par le Seigneur lui-même à pratiquer cette sainte activité. Intéressant parce que dans le livre que j'utilise, G.I. Packer, il y en a qui connaissent fort probablement l'auteur G.I. Packer, lui, il a donné une définition de l'évangélisation que je trouve très intéressante en quelques phrases. Il dit vraiment une définition de l'évangélisation. Alors, dans le livre, il est en anglais, mais je l'ai traduit avec Google Traduction. Je pense que la traduction est assez bonne. Alors, je vais vous la donner en français tout de suite. L'évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit à des pécheurs, afin qu'ils puissent venir mettre leur confiance en Dieu par lui pour le recevoir en tant que leur sauveur et le servir en tant que roi en communion avec son Église. On la reprend. L'évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, à quelque part, qui fait le travail de conversion, c'est pas notre habileté puis notre éloquence. Ça, faut enlever ça du cocon. Bien comme faut. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais pour que le Saint-Esprit fasse le travail, nous, faut donner aux gens du matériel, soit traité, soit échangé verbalement, d'autres moyens. Mais à quelque part, il faut que c'est le Saint-Esprit qui fait l'ouvrage. Se souvenir, quand on le présente à des pécheurs, ben, tout le monde autour de nous autres qui sont pas sauvés sont des pécheurs. Et même quand on est sauvé, on demeure des pécheurs. Afin qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu par lui, en voulant Dieu par Jésus-Christ, pour le recevoir en tant que leur sauveur. C'est ça le but de l'évangélisation, pour que Jésus devienne ton sauveur. Et le servir en tant que roi en communion avec son Église. Ce que j'aime de cette définition, c'est qu'il ramène les gens dans l'Église locale. Alors, et le servir en tant que roi en communion avec son Église. Alors, tu peux pas juste évangéliser pour dire t'es sauvé, puis ça reste chez vous, fais ce que tu voudras. Dieu t'a sauvé pour que tu vives avec d'autres chrétiens en Église locale. Alors, en un mot, évangéliser, c'est communiquer l'Évangile tel que donné dans les Saintes Écritures. Ça, je dirais que c'est très important, la définition. On le dit en d'autres mots, autrement dit. C'est de communiquer l'Évangile tel que donné dans les Saintes Écritures. De plus en plus, il y a un dérapage, il y a un éloignement de la véritable définition de ce que c'est l'Évangile aujourd'hui, là. Et là, on pourrait rentrer dans un très, très, très vaste sujet. Comment l'Évangile est présenté. La véritable évangélisation, c'est quand on présente l'Évangile tel que défini dans les Saintes Écritures. Sinon, c'est plus l'Évangile. C'est l'Évangile tronqué, c'est l'Évangile dilué, et c'est dangereux de s'en aller dans cette direction-là. Donc, l'Évangile peut être communiqué de différentes façons. Par la parole. On peut rencontrer quelqu'un et on lui dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de M. Gaynor, que je vous avais déjà rencontré, raconté quand il était en Australie. Mm-hmm. Il était sur une rue puis il distribuait des traités. Et il faisait juste dire à la personne, bonjour monsieur, bonsoir madame. Si vous mouriez ce soir, est-ce que vous iriez au ciel ou en enfer? Juste ça! Il a fait ça pendant des années, il a distribué des milliers de tracts. Durant toutes les années qu'il a fait ça, il n'a même pas vu une seule conversion. Puis à la fin de sa vie, les circonstances ont fait en sorte que Dieu a permis qu'ils savent qu'il y a eu des multiples conversions qui ont eu lieu, même des milliers. Alors, je trouve ça, des fois, on peut avoir des moments de découragement quand on a beaucoup envoyé des traités un peu partout, puis on a donné. À un moment donné, on reçoit un téléphone, on se dit, coudonc. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de t'as pas eu de téléphone, qu'il n'y a pas eu de conversion. OK. Alors, l'Évangile peut être communiqué par la parole, par écrit, les traités, ou les Bibles, ou enregistré par audio ou par vidéo. Aujourd'hui, Internet n'est plein. De personne en personne ou à une foule. De plus en plus, ça a été pratiqué personne à personne. Ça a été pratiqué aussi par certains évangélistes à des immenses foules, 50, 60 000 personnes en même temps. Alors, l'ordre d'évangéliser a été donné à tous les disciples de Jésus-Christ. Si on est ici, c'est parce qu'on se dit des disciples de Jésus-Christ. Alors, l'ordre nous a été donné à nous personnellement. Je n'ai pas regardé. Ah oui, lui... Lui en aurait besoin ou elle en aurait besoin. C'est à toi qui parle. Alors, Matthieu 28, versets 18 à 20, c'est un verset, des versets classiques en termes d'évangélisation. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Deux choses. Il nous demande d'aller évangéliser la terre entière et il nous demande, on est porté à faire juste la première partie. Il donne un traité, puis après ça, ben là, ben, le pasteur, toi, occupe-toi-en. C'est pas ça que le verset dit. Le verset dit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Donc, il y a une partie du travail, c'est d'évangéliser, puis une autre partie du travail, ça serait de former des disciples. Puis pour former des disciples, ça prend un peu de connaissance. Puis, des fois, ça serait supposé être notre travail de le faire. Après qu'on a emmené quelqu'un au Seigneur, on devrait le considérer un peu comme si ça serait notre bébé. Mm-hmm. S'en occuper. Parce que c'est facile de tout pelleter dans le cours du pasteur et dire, ça se tord, occupe-toi-en. Bien, facile. Alors, rien pour dire que l'ordre n'est pas donné juste dans un évangile. Il y a quatre évangiles. L'ordre nous est donné dans les quatre évangiles. Marc 16, verset 15. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. » C'est fort, ça. Hein? Des fois, je me souviens, des fois, là, dans la rue, on donnait des traités dans la rue, puis il y avait des personnes, là, comme, on aurait dit que je les voyais s'en venir, je me disais, « Oh non, lui, voilà. » C'est comme, avant même d'essayer, j'étais déjà dans un état défaitiste. « Ah non, lui, il ne voudra pas. Il avait l'air d'un gros bum. Il avait l'air d'un train, d'un fond de prison. Voyons donc. Je vois si j'y offre un traité, voir s'il va le prendre. » Fait que des fois, tu n'oses pas, puis tu n'y donnes pas. Alors que le Seigneur en a déjà sauvé des gros pécheurs. Il faut que tu essayes pareil. Tu peux être mal reçu. « Viens, maman, aidez la mère. » Ça peut être ça ta réponse. Mais... il reste que c'est quand même, il faut l'offrir quand même. Luc 24 aussi, c'est répété, dans verset 46-47. Il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Toutes les nations, tous les individus de la terre. Ça veut dire que le travail d'évangélisation, avant qu'on ait fini, il y en a pour un bout, comme on dit. Alors, des fois, on pense que Mégantic, que toute Mégantic connaissent l'Évangile et qu'ils l'ont entendu. Je ne suis pas sûr de ça. Jean 20, verset 21. « Il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. » Vraiment, le verset parle de cercle concentrique. Tu commences par tes proches, t'élargis plus loin jusqu'aux extrémités de la terre, ben là... Tu t'en vas loin. Alors, nous ne devons pas nous servir de la piète excuse que le Seigneur ne nous a pas appelés à être un évangéliste et que nous sommes de cette façon exemptés de cette obligation. Par exemple, on pourrait se servir de Éphésiens chapitre 4, verset 11 pour dire, « Ben moi, je n'ai pas été appelé comme évangéliste, donc je n'ai pas d'affaire à faire ça. Pas à moi à faire ça. » Alors, c'est aussi lui, parle de Christ. L'autre jour, je trouvais ça intéressant parce que j'écoutais Maurice Ray, à un moment donné, qui disait, à un moment donné, j'ai eu un moment dans ma vie de pasteur où j'étais complètement découragé. Il dit là, je suis venu en prière devant le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, j'aurais besoin de savoir deux choses. C'est-tu toi qui veux que je sois là? Puis, il y avait une deuxième question, donc je ne me souviens pas de la deuxième, je me souviens sorti de la première. Il dit, quand je suis tombé sur ce verset-là, j'ai eu ma réponse. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé à faire ce travail-là, même si des fois tu n'as pas le résultat que tu aimerais avoir? Il dit, c'est aussi lui. Quand on dit lui, c'est qui le lui? C'est Jésus-Christ. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Je venais d'avoir ma réponse, je suis un pasteur et docteur. C'est qui t'a nommé là? C'est lui. Donc, tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais pourquoi tu es là. Nous devons nous considérer comme des prophètes de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La deuxième idée qu'on a dit qu'on examinerait, c'est l'évangélisation, l'habilitation. C'est vraiment... les anglophones ont un mot intéressant pour illustrer que la capacité et la hardiesse pour évangéliser est donnée aux croyants par le Seigneur lui-même. Et ce mot, est en anglais, c'est « empowered ». Quand tu essaies de regarder dans un dictionnaire, trouver une définition, un mot équivalent français, le meilleur que j'ai trouvé, c'est « habilitation ». Il te rend capable de. Habilité, ça veut dire habiliter quelqu'un, ça veut dire le rendre capable de faire quelque chose. Alors, c'est pas un problème de dire au Seigneur, je suis pas capable d'évangéliser. Il sait. Penses-tu que tu vas y apprendre quelque chose quand tu vas dire ça? Mais lui, il a ce qu'il faut pour te donner ce que toi tu as besoin pour être capable de le faire. Pourquoi y a-t-il autant de désobéissance et de laxisme? Du laxisme, c'est du laisser aller. Quant au commandement donné par le Seigneur à ses disciples d'évangéliser. Pourquoi y a-t-il tant de désobéissance et de laxisme? Ben, c'est exactement quand le Seigneur reprend son Église dans Éphésiens, l'Église aux Éphésiens, dans l'Apocalypse, qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes pas assez pour partager ce que j'ai fait pour toi, et tu n'aimes pas ton prochain assez pour lui parler de ce que je peux faire pour lui. T'es mieux ton confort de pas te faire donner des bêtises que de t'avancer puis de lui dire ce que tu as à dire. » Alors, pourquoi tant de désobéissance? Parce que, OK, on a vu tantôt qu'il y avait... On peut se considérer comme étant incompétent ou incapable de le faire. Alors, on peut se persuader nous autres-mêmes qu'on n'a pas les connaissances bibliques, on n'a pas les connaissances théologiques, puis se dire, ben oui, mais si d'un coup qu'il me dit ci, puis qu'il me dit ça, qu'est-ce que je peux répondre? Ben, peut-être que tu as intérêt à approfondir un petit peu juste les principaux versets de l'Évangile de manière à ce que tu sois capable de répondre. Puis au pire, allez, quand tu ne sais pas, tu peux dire, je ne sais pas, mais je vais t'en revenir là-dessus. Mais tiens parole dans ce temps-là. Alors, nous croyons que nous ne pourrons pas répondre aux questions ou aux objections que les gens pourraient avoir. Nous sommes paralysés par la peur. Moi, je pense que ça, c'est la principale raison pour laquelle il y a si peu d'activité de la part des individus dans les églises locales pour évangéliser. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être rabroué ou moqué, et nous choisissons la solution facile, celle de se taire. Si tu fermes ta gueule, t'as pas de problème. Mais quand on rouvre la boîte, puis qu'on parle de Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours des risques. Et aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est de risquer. C'est de prendre le risque. Même si tu reçois une poignée de bêtises, au moins t'as essayé, tu l'aimais assez pour présenter le Seigneur Jésus-Christ. Puis des fois, c'est surprenant. Hein? Des fois, les personnes qu'on pense sont les plus fermées. Moi, je me souviens, je travaillais au pénitencier de Coinsville à l'époque. Il y avait un chrétien, je travaillais dans un bureau, puis je n'étais pas converti à ce moment-là. Je travaillais dans un bureau, puis il y avait un gars en face de moi. Lui, il allait à Granby dans une église. Puis je me souviens, il m'approchait, puis il me disait, « Dimanche, tu as quelque chose à faire? »« Non. « Voudrais-tu venir à notre église à Granby? » »« Oh, ça ne me donne pas. » Mais c'est pour dire qu'il ne m'a jamais, on a été 2 ans dans le même bureau, puis il ne m'a jamais partagé l'Évangile pendant 2 ans. Il m'a juste invité à son église. Il avait des occasions, on était toute la journée dans le bureau ensemble, il aurait pu me dire, « Oui, mais tu le connais-tu, Marcel, le Seigneur Jésus? C'est qui? C'est quoi ton problème? » Pas tout, c'est bizarre, pareil. Puis il me semble qu'aujourd'hui, à l'époque, j'étais mûr. S'il me l'avait dit, je l'aurais écouté. Je ne dis pas que le travail se serait fait immédiatement, nécessairement, je ne sais pas. Mais ce que je retiens, c'est qu'il n'a même pas essayé. Puis ça, là-dedans, là, je ne suis pas un blâme que je lui fais à lui. C'est un blâme que je me fais à moi. Parce que moi aussi, des fois, j'en ai des occasions, puis je ne les saisis pas tout le temps. La même chose que lui. Et une autre raison que lui donne dans son livre, il dit peut-être c'est parce qu'on réalise le côté solennel de ce que c'est la vie éternelle, soit le ciel, soit l'enfer. Bien entendu, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, est-ce que si tu enlèverais l'enfer, si tu dirais à quelqu'un, tu n'iras pas en enfer si tu continues à pécher, est-ce que tu serais porté à annoncer l'évangile pareil? Est-ce qu'on annonce l'évangile juste pour éviter à quelqu'un l'enfer? Ou est-ce qu'on annonce l'évangile pour lui faire connaître la plus glorieuse, la plus majestueuse, la plus aimante, la plus miséricordieuse? Jésus, c'est Dieu aussi. Là. Pour lui faire connaître Dieu, ça devrait être bien plus notre motivation que de lui éviter l'enfer. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, mais il reste que la première motivation pour laquelle on devrait évangéliser, c'est ça de faire connaître à quelqu'un notre Dieu qu'on connaît, nous, et qu'on connaît de mieux en mieux, de plus en plus, et qu'on apprécie de plus en plus. Alors, peut-être que on réalise le côté solennel du sujet de la vie éternelle, et ça nous fait peur. Ça fait peur de dire à quelqu'un, sais-tu que si tu décèdes, tu t'en vas en enfer? C'est solennel, là. Surtout si tu le crois vraiment, là. Si tu décèdes, là, tout de suite, là. C'est là que tu t'en vas direct, puis tu vas y aller, puis tu vas rester là l'éternité. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Si on le croirait vraiment, on parlerait de l'Évangile à longueur de journée. Alors, il y a l'autre idée qu'on n'entreprendra pas ce soir. On va arrêter là et on va regarder la prochaine fois. C'est quoi le succès dans l'évangélisation? C'est quoi le véritable critère pour évaluer si on a du succès dans notre évangélisation? On va arrêter là pour aujourd'hui.